Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
22h50, vous êtes sur RMC. On est en direct jusqu'à minuit avec Maxime Chano, avec Elton Mokolo, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, mais aussi au 32-16 sur RMC. On vous attend. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui sont pas contents après Maxime, hein, parce que.
Pourquoi
temps... ah, bah, parce que tu avais un petit peu tendance à dire que finalement, pendant les trêves internationales, les joueurs ne faisaient rien.
Je suis bien placé pour le savoir, Elton et Karine. Je peux vous dire, regarde. On va le faire très très rapidement, d'accord. En règle générale, tu joues ton match avec le club le samedi ou le dimanche, d'accord. Le match qui suit en équipe nationale est le jeudi. Donc tu arrives lundi en équipe nationale, tu gères un petit peu les bobos, tu commences à t'entraîner le mardi. Mercredi, c'est la veille de match. Donc tu sais bien que la veille de match, tu fous absolument rien. Jeudi, c'est le match. Le vendredi, c'est l'après-match. Et tu rejoues le dimanche. Rebelote. Donc en fait, tu as une ou deux grosses séances dans la semaine. Et après, tu repars en club. Écoute, je peux te le dire une chose. Alors certains vont dire les mauvaises langues. Le Luxembourg n'est pas la France, certes. Mais la planification d'une semaine est la même. La qualité est peut-être différente, mais la planification est la même. Et je peux te dire, tu fous absolument rien en équipe nationale.
Et t'oublies,
c'est les vacances.
Tout. Non, Maxime, tu oublies un point important. Et quid des compétitions internationales?
Alors c'est différent.
Mais c'est différent, il y en a une tous les deux.
Il passe
50 jours, et pendant 50 jours, évidemment, qu'il travaille, il bosse.
Oui, mais t'as la prépa physique parce que tu vas remettre les joueurs. Mais bon, t'évolues pas, c'est différent. On parle de qualité intrinsèque.
Dans le film, tu m'as mis que la première partie.
Moi, je veux aussi la deuxième partie, parce que ça dure 24 mois. Donc, c'est sûr que s'il y a une compétition et tu me parles de 50 jours, il faut aller jusqu'en finale. Et puis, t'imagines bien que tu gères aussi les efforts, la condition physique. Donc, t'es pas constamment sur des grosses séances de travail.
Je suis d'accord pour dire qu'on peut quand même travailler en sélection parce que moi, je
suis d'accord.
Moi, je me bats contre cette idée. Ben, on peut travailler parce que parfois, en équipe de France, notamment pour défendre Didier Deschamps, on nous expliquait qu'on ne pouvait pas travailler, ce qui est factuellement faux.
Non, c'est vrai. Et je ne te parle même pas des soirées que tu as, les soirées officielles et les soirées officieuses. Donc, n'en parlons pas parce que ce n'est pas le moment d'en parler. Mais crois-moi, c'est plus les vacances qu'une semaine de travail quand en équipe nationale.
Bon, en tout cas, on rappelle quand même que, par exemple, avec De La Fuente, on a vu une équipe qui travaillait, qui progressait, et des joueurs collectifs,
pas individuels.
Les deux, individuels et collectifs.
Non, mais bien sûr, mais vous êtes sérieux, pas. Tu peux progresser de manière collective parce que les animations offensives sont réglées, sont travaillées, mais t'es pas obligé de progresser de manière individuelle. T'as des mecs qui ont un plafond de verre, qui vont rester comme ça et qui se fondent dans un collectif qui fonctionne.
Après, voilà. C'est difficile à quantifier la progression individuelle, déjà.
Mais en tout cas, on espère que sous Zinedine Zidane, il y aura aussi des joueurs qui pourront progresser.
Ou qui auront une autre réalité par rapport à où ils étaient en équipe de France.
De toute façon, il y aura une nouveauté, évidemment, avec un staff de 22 noms, on rappelle, qui a été dévoilé aujourd'hui. Retour à Birmingham pour les championnats d'athlétisme. C'est le championnat d'Europe. On est avec Aurélien Tirsain et avec Teddy Tamgo. Messieurs, la finale du 200 mètres femmes va partir dans quelques secondes.
Et Teddy, c'est la seule représentante du sprint français. Il n'y a pas de garçon sur le 100 et le 200, Jemima Joseph. Et donc en finale du 200 mètres femmes, couloir numéro 4, avec notamment, et malheureusement pour elle, la légende britannique Dina Asher-Smith, championne du monde en 2019, 6 fois médaillée européenne. Amy Hunt, la championne d'Europe du 100 mètres. Et l'Irlandaise Rasidat Adeleke. En deux mots, ses chances de podium.
Assez compliqué parce qu'il y a trois monstres devant Hunt, Dina Asher-Smith et Adeleke. Ça va être assez compliqué. Il faudra vraiment qu'elle explose son record, n'est-ce pas, pour espérer en fait rentrer, monter sur la boîte.
Il y a du monde ce soir dans le stade de Birmingham. C'est parti pour Jemima Joseph qui est à l'intérieur, qui va devoir faire son effort. Elle est pas si mal partie. Bon départ de la fusée de Kourou, la Guyanaise, mais ça va trop vite pour l'instant avec Dina Asher-Smith. Le duel avec Amy Hunt aura lieu et Amy Hunt, la championne d'Europe du 100 mètres, est en train d'attaquer la légende et elle va faire le doublé 100-200. Attention au retour de l'Irlandaise, il n'y aura pas de podium pour la Française. Amy Hunt, le doublé 100-200 devant probablement Adeleke ou Asher-Smith. Il y aura peut-être une petite photo, c'est Adeleke l'Irlandaise, je pense, médaillée déjà sur le 400, qui sera vice-championne d'Europe du 200 mètres. Et Dina Asher-Smith qui est un peu vieillissante, entre gros guillemets, Teddy. Mais quelle légende, et qui va encore prendre une médaille européenne, Dina Asher-Smith en bronze.
Ah oui, elle a un tel potentiel, elle a couru tellement vite dans sa carrière qu'elle n'a même pas besoin d'être à son prime en fait pour récupérer des médailles au niveau européen. Elle en a des titres, elle les collectionne même, mais là, elle continue en fait à... Elle ouvre sa collection, en fait, sa boîte à collection avec une nouvelle médaille d'argent. Donc c'est une des reines du sprint au niveau européen, une des légendes même d'ailleurs.
Eh oui.
Et voilà, maintenant, dommage pour Jemima Joseph, Jemina Joseph. Elle a tout donné, on voit vraiment qu'elle s'est battue, mais voilà, aujourd'hui le niveau était trop élevé pour elle.
Ouais, cinquième en 22-63, pas très loin de son record personnel. Et pendant ce temps, il y a encore le concours de la perche. On rappelle que Alice Finot a remporté la médaille d'argent sur 3000 mètres steep. Donc la France a empoché une cinquième médaille ce soir et donc probablement une sixième grâce à Marie-Julie Bonin qui pour l'instant est troisième du concours de la perche derrière Angelica Moser et derrière Vilma Murto. D'ailleurs, c'est validé. Elle sera à minima en bronze puisque la Belge Eline Wekemans manque encore une fois un saut à 4,75. Alors Marie-Julie Bonin sera à minima en bronze derrière la Suisse Angelica Moser et la Finlandaise Vilma Murto. Mais ce n'est pas terminé. Margot Chevrier, quatrième ex-aequo. Hein. Quatrième ex-aequo, deux ans et demi après sa fracture ouverte. 4,60, c'est un résultat magnifique pour Margot Chevrier. On te tient au courant, Karine, quand Marie-Julie Bonin pourra empocher cette fameuse médaille.
Merci beaucoup, messieurs. On revient vous voir donc pour la perche et donc nouvelle médaille pour l'équipe de France, actée en tout cas. Et on a hâte de voir la suite de ce concours. Deux échecs. Il faut jamais renoncer, les gars.
Exactement.
François est-il avec nous au 32-16 sur RMC? François, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez?
Bonsoir. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
Alors là, c'est exceptionnel. François, on est ravis de vous avoir au 32-16 sur RMC. Alors, François, vous connaissez Farid Tabé, qui est aujourd'hui donc assistant coach analyse data vidéo dans le staff de Zinedine Zidane. Et vous, vous l'avez connu comme entraîneur au Canet. Dites-nous tout.
Je l'ai eu plus de 10 ans au Canet Rocheville, en National 3. En fait, c'est un coach qui a accueilli David Bettoni à l'AS Cannes quand David Bettoni a basculé de sa carrière de joueur en entraîneur. Donc c'est Farid Tabé qui l'a accueilli et qui l'a aidé dans ses premiers pas. Et ensuite Farid Tabé a entraîné au Canet Rocheville, donc une National 3, et je l'ai eu pendant 10 ans. Et voilà, c'est un coach qui tactiquement, je pense, est au-dessus du lot. C'est quelqu'un voilà qui a le souci du détail, qui à la mi-temps avait une analyse de là où il fallait jouer, là où il fallait trouver la supériorité. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment pertinent dans ce qu'il fait. Et d'ailleurs, c'était son adjoint en Tunisie, c'était l'adjoint de David Bettoni en Tunisie. Voilà, c'est des gens de confiance. Zidane, il a mis des gens de confiance, des gens qui se connaissent bien. Et voilà, Farid Tabé qui est un Marseillais et qui a toujours été proche de David Bettoni. Et voilà, je pense que Zidane a besoin de mecs de confiance et il a mis des gens performants.
En tout cas, son évolution est très belle, avec beaucoup d'humilité et de respect. Mais c'est vrai que de partir de Canet et de te retrouver en équipe de France, bravo, il n'y a que dans le football, je pense que tu peux voir ça.
Ouais, mais ça a été beaucoup de travail, je pense, de sa part, parce que déjà, quand il était avec nous au Canet, il nous disait qu'il analysait déjà des vidéos quand il les recevait du Real Madrid pour les matchs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé un peu dans l'ombre et qui, comme je vous dis, c'est un entraîneur qui, à la mi-temps, il arrivait à se détacher et à nous dire, il y a une supériorité au milieu, jouez votre 3 contre 2 au milieu, ou alors insister, renverser sur les latéraux, jouez vos 2 contre 1. Enfin voilà, c'était pas le coach qui nous disait, allez, on le rentre dedans, des phrases bateau un peu qu'on peut entendre. Et moi, en plus, qui maintenant suis coach, j'ai pu beaucoup m'inspirer de ce qu'il a fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui va porter sa patte à l'équipe de France, en tout cas.
C'est intéressant, cette capacité d'intervenir dans la mi-temps, quand on se souvient que le Real Madrid de Zinedine Zidane, c'est précisément sur les secondes périodes qu'ils arrivent à inverser la tendance, et aussi notamment la réalité d'une compétition internationale. On l'a encore vu sur la Coupe du Monde, où ça se décide globalement sur les secondes périodes.
Je pense que c'est important, de savoir se détacher du match, entre guillemets, arriver à prendre du recul et comme tu disais, analyser là où on peut faire mal à l'adversaire ou alors justement régler les soucis qu'on peut avoir tactiques, c'est primordial.
Ouais, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que le football moderne a évolué et donc à la mi-temps de chaque match, tu as toujours l'analyste vidéo qui descend avec son ordinateur et qui vient brancher, entre guillemets, au mur du vestiaire pour nous montrer, en tout cas pour montrer aux joueurs ce qui n'a pas été bien fait, parce qu'évidemment, quand tu es à la hauteur du terrain, quand tu es joueur, tu vois pas la même chose que lorsque tu regardes depuis les caméras. Et donc c'est vrai que c'est aussi une particularité du football moderne. Où est-ce parce qu'on est beaucoup aidé grâce à la vidéo. Et c'est vrai qu'avoir un personnage comme lui dans un vestiaire, en tout cas dans un staff, c'est super utile
regard,
pour un
c'est
joueur.
C'est un autre œil, c'est une autre perspective. Et j'ai envie d'insister sur la perspective qui change beaucoup de choses. Et après, c'est vrai qu'il y a des hommes, enfin, il y a des acteurs qui sont sur le terrain. Le fait d'être un peu plus au-dessus, ça permet d'avoir.
C'est pas le même angle, bien sûr, ouais, tu vois les choses différentes.
T'as un autre rapport.
C'est clair, c'est quelque chose qu'il arrivait à faire déjà alors qu'il entraînait. C'est pas évident. Alors là, le fait d'être voilà, d'être avec de la hauteur, avec un peu moins de pression, de voilà, de dire les consignes en direct, je pense que voilà, il va être encore encore plus performant et ça va être encore plus pertinent ce qu'il va dire. Et oui, je pense que ça va être un plus, ça va être un plus pour l'équipe.
C'est une autre forme d'autorité dans le sens où t'es un peu détaché par rapport à ce qui se passe sur le terrain, sur l'aspect émotionnel.
D'ailleurs, souvent les 10 premières minutes, il disait pas grand-chose et il observait, il était beaucoup dans l'observation, justement, ben pour analyser les faiblesses de l'équipe et là où il pouvait nous faire mal également.
Merci beaucoup François d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC pour nous parler donc de Farid Tabé qui fait partie du staff de Zinedine Zidane. On vous rappelle les rendez-vous à la mi-septembre, il y aura la première liste de Didier Deschamps, c'est fini. La première liste de ZZ de Zinedine Zidane. Le premier match en Turquie, ça sera le 25 septembre. Puis deuxième match également, ça sera à l'étranger en Belgique le 28 septembre. Les retrouvailles avec le peuple français, les supporters français. Le 2 octobre, France-Italie, sacré clin d'œil quand même, on rappelle évidemment. Dernier match de Zinedine Zidane avec le maillot bleu, c'était la finale face à l'Italie. Et bien là, son premier match sur la terre hexagonale, ça sera un France-Italie au Stade de France. Match à guichet fermé, donc ne cherchez plus des places, c'est cuit. Et le 5 octobre, France-Belgique. Donc c'est un rassemblement de 3 semaines avec 4 matchs pour commencer.
Il n'est pas bizarrement bien foutu ce calendrier. Donc il y a 2 matchs de suite extérieurs et 2 matchs de suite à domicile.
C'est ça.
Comme ça les voyages, c'est mieux, non ?
Ok, ouais.
Ça fait en tout cas, ça sera un gros rassemblement, le premier de Zinedine Zidane, et vous le vivrez évidemment sur RMC.